Vous écoutez RMC.
Julien Laurence nous rejoint également. Julien, restez après les Drôles de l'âme. Salut Julien.
Salut Gilbert, salut à tous, bonsoir.
Oui, parce que, bon, excuse-nous Julien, mais nous aussi, forcément, il faut qu'on compte avec nous pour débattre du match de demain, donner notre avis, que tu nous donnes le tien. Pour bien ce Laurencico entre Arsenal et le PSG de demain soir. Bon, je sais pas si, est-ce que tu as les infos importantes à nous donner? Il y a eu les confs. Aujourd'hui, Arteta a confirmé que Merino et Ben White sont aptes, mais suspense sur leur titularisation. Voilà, c'est l'info qu'on peut donner ce soir sur Arsenal.
Ouais, enfin non, suspense, il n'y a pas trop quand même. On sait l'équipe qui jouera demain, qui sera alignée
d'entrée. Ah, toi, t'as l'équipe, toi.
Bon, oui, je pense que c'est assez simple, hein. Il y a rien de secret, je pense. Après, tu peux toujours attendre. Enfin, c'est toujours possible qu'un entraîneur change quelque chose à la dernière minute ou tente quelque chose. Mais normalement, ça devrait être assez basique, vraiment, parce que c'est la même composition d'équipe qu'on a vu contre Ipswich en première période, enfin jusqu'à l'heure de jeu quoi, et puis après contre Crystal Palace aussi pour la plupart du match. Donc Partey suspendu, c'est le seul changement, c'est un changement qui entraîne deux autres changements de poste pour Rice et pour Merino, mais le reste ce sera exactement ce qu'on a vu contre le Real à l'aller et au retour. Donc sauf que Merino jouera en 8 et pas en 9, et que Trossard viendra en 9 et Rice jouera en 6 et pas en 8, mais sinon à part ça le reste, je pense qu'il y aura pas trop de surprises non plus, il devrait pas y avoir de surprises.
Bon, Arteta a dit c'est le plus grand match de l'histoire de l'Emirates depuis 2006.
Ah, c'est normal, dernière finale de Ligue des Champions 2006, ça fait sens.
Après, donc, en gros, 2006, quoi, depuis quoi, depuis,
il a dit l'un des plus grands.
L'un des plus grands
en finale, ouais. Et donc la demi contre Villarreal.
C'était à Highbury, la demi contre Villarreal.
2006, ouais, c'est l'année de l'inauguration du stade.
C'est parce que depuis la création du stade, ils ont
une double confrontation pour aller en finale de Ligue des Champions. Arsenal a quand même eu des années très compliquées dans la restructuration du club engagé il y a quelques années. Le post-Wenger, c'est pas toujours bien passé, et l'arrivée à l'Emirates non plus. Oui, je comprends que Mikel Arteta dit ça. C'est un virage très important pour un club qui est à limite dans sa construction un peu d'avance par rapport au PSG. Ce serait, si on dépassionne complètement les choses, si Arsenal passait, il y aurait presque une forme de logique historique.
Mais par rapport au travail, a souligné ça, il a dit ça fait 6 ans qu'il est là.
Par rapport au travail qui a été entrepris par cet entraîneur. Je me souviens quand avec Kevin on parlait il y a quelques années, j'ai plus en tête exactement le All or Nothing d'Arsenal qui doit dater d'il y a 3 ans maintenant. 3-4 ans.
C'était même 4 ans, je pense.
Ouais, ça date quand même un petit peu maintenant. Mais un de ceux qu'on avait le plus aimé, d'ailleurs, dans ces fameuses séries, parce que des choses très fortes étaient dites au moment où Arteta avait fait des choix forts. Je me souviens, Aubameyang et des joueurs dont il ne voulait plus. Il y a quelque chose qui effectivement est très intéressant. Alors c'est vrai, là on se met au balcon anglais, donc les Français, les supporters du PSG vont peut-être dire mais on n'a rien à cirer, on est sur le balcon PSG. Oui, mais sur le balcon anglais, il y a un truc très positif à Arsenal et il y aurait presque une forme de logique à ce qu'il touche une finale.
Bon, côté PSG, on n'a pas ce soir encore de confirmation de compo d'équipe. Bon, enfin bon, globalement, comme le Cédric fait à peu près la même chose.
Là, c'est terminé.
Il y a l'instant plusieurs matchs. Marco Ladoué.
Mais moi,
comme d'hab.
Ouais, maintenant, c'est le seul point. Oui. Mais alors, la dernière fois à Aston Villa, t'as dit la même chose et finalement, il a mis Barcola. Ok, alors on peut me dire, oui, mais le but, il est venu comme ça et tout. Je répète encore une fois que c'est pas parce qu'un truc s'est passé en termes de résultats à un moment précis que ça veut dire qu'avec un autre, ça ne se passait pas de la mieux ou pareil ou quoi ou qu'est-ce. Je préfère, ça fait quand même des mois que je le dis, je préfère ce que propose Doué sur le terrain. Ok, Barcola est peut-être plus rapide, plus des qualités de contre-attaquant, mais en maîtrise du ballon et en maîtrise collective, je préfère ce que propose Désiré Doué, frappe de balle, les choses qu'il est capable de faire sur un terrain. Donc moi, c'est lui que je ferai démarrer.
Mais le choix que fera Luis Enrique indiquera peut-être ce qu'il pense du scénario du match. Est-ce que tu vas devoir laisser le ballon comment c'est Julien, c'est
tu
pas qu'on parlait tout à l'heure.
Tu penses réellement que ce mec-là se dit je vais pas avoir le ballon ou je... Et lui, ce qu'il espère, c'est tout le temps essayer de contrôler, c'est tout le temps essayer de l'avoir.
La hauteur du bloc de l'équipe adverse qui peut changer en fonction des scénarios. C'est vrai qu'Arsenal, normalement, à domicile, ils vont plutôt essayer de t'impacter, ils vont essayer de gagner, donc ils vont. Tu peux considérer qu'ils auront un bloc un peu plus haut qu'au match retour s'ils avaient réussi à avoir un résultat correct. Et donc, pourquoi pas au match match aller faire jouer un Barcola qui a besoin d'espace et qui est un peu plus en difficulté.
Mais,
dans
mais
les
vous
petits.
Pensez vraiment, enfin, je veux dire, on a l'impression qu'on parle de la tortue. Enfin, il y a une différence de vitesse astronomique entre les deux au point où tu puisses pas jouer des phases de transition
non,
avec Désiré Doué.
Non, c'est pas ça. C'est que je joue peut-être plus avec Barcola ces phases d'un.
Moi,
à contrario avec Doué, quand tu joues dans des petits espaces, il est plus fort.
Moi, je crois pas. Moi, je crois vraiment, je crois pas. Je crois que tu peux jouer des phases
les plus rapides du championnat. Mais en vitesse pure.
D'accord, mais enfin là, on est en train de parler d'athlétisme. Déjà, c'est pas parce qu'il va faire 0,5 de plus en rapidité.
Non, on te dit qu'il y a un joueur, c'est sa range. Il y a un joueur, sa range, c'est vraiment 30 mètres dans le dos de la défense.
Bien compris.
Contrôle orienté et j'accélère.
Je crois que j'ai compris ce qu'étaient ses atouts, mais je préfère l'autre atout.
Oui, mais ça veut dire que si, je t'explique juste, nous, ce qu'on veut dire, c'est. T'as deux options. Mais t'es entraîneur. T'as... Non, mais t'as les deux options.
Je crois que vraiment j'ai compris
l'option. Barcola ne peut jouer qu'avec 30 mètres de quasiment de profondeur. Alors que Doué peut faire les deux.
Et donc en fait, c'est pour ça que je mettrais Doué.
Oui, mais t'es quasiment sûr que sur la première heure de jeu, Arsenal va sortir un peu.
Donc toi, tu mets Barcola?
Non, je dis pas que moi je mets Barcola. Je dis juste que dans la vision de Luis Enrique des deux solutions, il partira peut-être plus avec Barcola.
Tu peux très bien, après, tu peux très bien faire 50 minutes. Et
c'est ce qui va se passer de toute façon.
Une option supplémentaire.
Oui.
Et là, on est parfois un petit peu à dire qui doit démarrer. Oui, ça donne un visage d'ensemble au ton du match.
Mais t'es d'accord que Barcola, tu l'as pas son option si tu mènes, si t'es mené 1-0 et que Arsenal est en bloc bas, tu fais rentrer Barcola contre un bloc bas, t'as moins d'options que de faire rentrer Doué.
S'il mène un score,
en tout cas, Julien nous disait tout à l'heure, je passe tout au contrôle, Jules, que Arteta craignait beaucoup les transitions du PSG.
Ouais, tout à fait, ouais. C'est ce qu'il craint le plus, d'ailleurs, plus que.
Arsenal, contre Manchester City, ils défendent très bas, hein. Quand ils jouent,
ils sont à 10.
Attends, laissez parler Julien, s'il vous plaît. Vas-y, Julien.
Ils sont à 10 là-bas. Mais oui, mais moi, on expliquait tout à l'heure, ils sont capables de jouer dans tellement. Je pense qu'ils sont plus complets. Enfin, ils sont très complets et ils ont beaucoup de variations dans leur jeu avec ballon et sans ballon. Donc, ils sont capables d'avoir des phases de jeu où ils vont jouer très bas, d'autres ils vont aller chercher très haut, avoir un contre-pressing très agressif, d'autres où ils vont commencer leur pressing à la ligne médiane par exemple avec un bloc médian. Ils sont capables de changer beaucoup, mais je pense que Luis Enrique essaie de deviner un petit peu ce qu'ils feront en priorité. Et du côté d'Arsenal, oui, on a beaucoup peur des transitions, on a peur d'un but en 3 passes comme à Liverpool, d'un but en 4 passes comme à Aston Villa par exemple, ce que le PSG est capable de faire. Donc plus tu joues haut et plus tu t'exposes forcément à une transition comme ça et à prendre un but à te faire transpercer en 3 à 4 passes, plus tu joues bas, moins t'as ce risque-là forcément, puisque comme on l'a dit, t'as pas les espaces pour Barcola, pour Kvaratskhelia, pour Dembélé, etc. Donc ce sera vraiment intéressant. Ça va être une, de toute façon, même si on connaît déjà les deux 11, on l'a dit déjà, il y aura pas de surprise. Tactiquement, ça va être une vraie bataille quand même, parce que je pense pas que ce soit non plus forcément trop le jeu du PSG demain d'aller presser très haut par exemple. Et plus tu attendras l'Arsenal et plus l'Arsenal va venir vers toi, plus va laisser des espaces derrière. Et là, ce sera à toi en revanche d'aller chercher des espaces. Donc, ça va vraiment être intéressant de voir qui va vouloir le contrôle, qui va vouloir le contrôle avec ballon, le contrôle sans ballon aussi, parce que tu peux très bien contrôler une rencontre sans avoir la possession.
Vont vouloir contrôler. Ça risque d'être aussi une espèce de jeu de vase communicant entre deux équipes qui veulent presser, qui veulent récupérer le ballon. Elles ont des styles très similaires. Elles sont capables d'aller vite, elles sont capables de contrôler, elles sont capables de te contrer, de te presser. Les deux sont pas plutôt bloc bas, mais plutôt aiment bien être médian et haut. C'est des équipes qui se ressemblent, avec des jeunes joueurs capables de produire beaucoup d'efforts. Ça peut être un match de très grande qualité, vraiment.
Un article très intéressant sur rmcsport.fr explique que les coups de pied arrêtés d'Arsenal, bon évidemment on se souvient des coups francs de Rice, mais que les coups de pied arrêtés d'Arsenal seront leur arme principale demain. Est-ce que Julien, t'es d'accord avec
de
ça?
De ce côté-là, ils sont en avance par rapport
au PSG,
c'est sûr. Oui,
ouais, bien sûr, ça c'est sûr. Mais on l'avait vu déjà au match du mois d'octobre, alors faut pas trop essayer d'analyser le match du mois d'octobre, parce que comme l'a dit encore Luis Enrique aujourd'hui, le PSG a tellement changé en bien d'ailleurs par rapport à ce match-là que il y a vraiment rien à retirer. Mais il y avait déjà eu un but là sur coup de pied arrêté. Mais c'est vrai qu'Arsenal est la meilleure équipe en Europe sur coup de pied arrêté, qu'elle est très efficace. Alors même peut-être un petit peu moins efficace maintenant là qu'elle l'avait été en première partie de saison, mais surtout depuis l'absence de Gabriel. Mais ça reste une équipe qui, oui, a des combinaisons, c'est exactement ce qu'elle fait, connaît les faiblesses adverses, sait comment les exploiter aussi. Je me rappelle très bien d'une conversation avec quelqu'un du club après une défaite à Manchester City un jour, il y a 4 ans de ça, je crois, où dans le tunnel, Même les joueurs d'Arsenal avaient senti à quel point City c'était des monstres physiques par rapport à eux. Et depuis, beaucoup du recrutement avait été tourné vers on va apporter du talent bien sûr et de la jeunesse, de l'énergie, tout ce que tu veux, selon les critères de recrutement comme Keke a dans son club aujourd'hui. Tu recrutes avec ces critères de ce dont tu as besoin, mais aussi il y avait ce côté il faut des joueurs physiques, il faut des joueurs costauds, il faut des joueurs on peut plus être intimidé.
C'est exactement pour ça que Luis Enrique a beaucoup insisté avec Fabian Ruiz, qui était bien sûr extrêmement critiqué. Et on a envie de dire à juste titre, hein, parce que ses prestations ont longtemps été pénibles à suivre, et que en ayant insisté avec lui, il en a quand même fait un joueur performant aujourd'hui. Qui sait, et s'il a insisté, c'est pas pour ses beaux yeux, c'est parce que sa densité physique n'existait pas par ailleurs dans le groupe.
Mais t'imagines, donc dans le couloir. Tu vois, tu parlais du couloir entre Manchester City et Arsenal, mais là demain, t'imagines dans le couloir à l'Emirates, si par exemple tu as Warren Zaïre-Emery qui joue à la place de Fabian Ruiz, c'est-à-dire que les trois milieux du Paris Saint-Germain, ils peuvent prendre personne au marquage sur corner, les trois attaquants ils peuvent prendre personne au marquage au corner, il y a que les quatre défenseurs et encore Hakimi, c'est pas Oliver Bierhoff de la tête, hein. Donc ça veut dire que t'aurais trois joueurs pour prendre les cinq ou six joueurs qui montent sur corner sur coup de pied arrêté. Donc forcément, Luis Enrique, il a besoin de Fabian Ruiz et il a besoin d'un minimum de taille, parce que au vu de la qualité de frappeur et surtout de receveur, même sans Gabriel, c'est quand même costaud ce qu'il y a du côté d'Arsenal.
Il s'est un peu vexé d'ailleurs, Luis Enrique, quand on lui a posé la question des coups de pied arrêtés. On lui a dit, est-ce que vous avez travaillé, c'est la force d'Arsenal. Il dit, vous imaginez, on m'aurait donné ma licence si on travaillait jamais les coups de pied arrêtés. On sent que c'est un sujet qui doit l'agacer un petit peu.
On a connu des coachs qui
il y a un moment où il avait dit qu'il travaillait pas.
Oui, il dit, sélectionnant l'équipe de France.
Ça nous a rappelé Domenech.
Il y a quelques mois, il disait le but sera d'en concéder le moins possible. Là, il a changé.
Ça veut dire le rôle de Donnarumma demain. Il faut falloir qu'il soit fort comme
à Liverpool.
Comme à Villa Park.
Les dernières sorties. Surtout
à Villa Park d'ailleurs.
Le match aller à l'Emirates, ça a été la plus grosse des catastrophes de l'année. Quasi ce top 3 des prestations terribles.
Sur les deux buts.
Et derrière, on a eu dans la deuxième partie de saison, mais mine de rien, c'est au moment où tout le groupe s'est amélioré, où toute l'équipe est devenue plus performante, où beaucoup plus de confiance s'est dégagée de tout le monde, que lui aussi a été en confiance. Et son match retour à Liverpool et celui contre Aston Villa, le retour, pour moi, il est homme du match, quoi. C'est lui qui fait des arrêts absolument décisifs, qui empêche la catastrophe, parce que ça aurait été une catastrophe quand même après le match aller de tomber à Villa Park. Donnarumma, évidemment. De toute façon, sur un match comme ça, là maintenant, t'es demi-finale de Ligue des Champions, tous les mecs doivent être bons, quoi. Si tu te qualifies, ce sera très difficile de dire, lui, il a vraiment été mauvais dans l'équipe. C'est rare qu'en demi-finale, tu te qualifies si t'as pas une homogénéité de niveau ou si tous les mecs répondent pas présents, quand même.
Et puis, au-delà du niveau, c'est sa capacité à forcer sa nature aussi, tu vois. C'est pas un gardien qui sort beaucoup. Il a réussi à faire ça, à se forcer contre Liverpool, puis encore une fois,
sortir Aston Villa. À bon escient.
Oui.
La sortie, par exemple, tu sais, on a souvent notre ami Thierry. Son nom de famille.
S'occupe de Thibaut Courtois.
Qui bosse avec Thibaut Courtois. Donc, d'ailleurs, j'ai oublié de lui envoyer un message, parce que j'aurais bien voulu qu'il me parle de la, puisqu'on parle de sortie.
La mauvaise sortie bien trop, sur Ferran.
En plus, très souvent, quand il m'envoie les vidéos, il me parle, il me dit, ça, c'est vraiment le type de sortie qu'un gardien ne doit pas faire tant que le défenseur peut être encore à côté de l'attaquant. Laisse ton défenseur aller avec lui et toi reste. Et là, Thibaut Courtois est parti à la pêche.
Faut dire que la passe, elle est exceptionnelle.
La capacité à faire cette passe-là, à ce moment-là du match.
Et là, c'est un type de gauche. Tu crois qu'elle va loin et hop, elle s'arrête.
T'as raison aussi, Jules. S'il sort pas, peut-être que ça paraît moins exceptionnel.
On est d'accord, mais la sortie, elle est pas bonne, quoi qu'il en soit.
Oui, mais qu'il sorte ou pas, de toute façon, Ferran Torres, il a un contre.
À partir du moment où tu as le défenseur est encore à côté de toi, le fais pas. Donc, puisqu'on parlait des sorties de Donnarumma, c'est sortir à bon escient. Parce que sortir pour aller te déchirer comme parfois ça lui arrive. Tu sais qu'à un moment il ne sortait pas parce que justement il savait qu'il allait se déchirer à tous les coups et il disait comme je suis très bon sur ma ligne, je vais essayer de compenser par des arrêts un peu réflexes sur ma ligne. Mais à un moment il faut quand même mettre le nez à la fenêtre. Hein.
Est-ce que vous voyez souvent des gardiens faire des parades sur une tête sur corner? Ça arrive très peu, à moins que vraiment la balle soit vraiment sur lui alors que le but est quand même très grand.
Tu veux dire quand il y a la tête et lui sur sa ligne? Le but de Nice.
Ou de Dortmund, l'année dernière.
Oui, voilà.
Le gardien reste sur sa ligne, ça va tellement vite. Donc en fait.
C'est quoi la solution pour
quand tu fais 2 mètres.
Vu qu'il se trouve dans les sorties.
Non mais boss, vas-y.
Moi j'aurais dit, t'es nul dans tes sorties, reste sur ta ligne. Et toi tu lui dis, il faut pas que tu.
Non, mais c'est limite, ça sert à rien. Vas-y.
C'est clair. Et après, il y a une autre stat qui est très intéressante. À savoir, c'est que vous remarquerez que souvent on dit qu'il y a 80. pardon, il y a 30 à 33% des buts qui sont marqués sur coup de pied arrêté dans une saison, notamment pour les équipes qui sont très performantes. Mais, il faut savoir que sur le coup de pied arrêté, c'est pas souvent une tête directement. C'est souvent une balle qui est déviée au premier poteau ou par un défenseur et qui est finalement finie par un deuxième joueur. C'est-à-dire, on appelle ça voilà le rebond, ou le deuxième ballon. Et c'est pour ça qu'Arsenal part comme ça à la queue leu-leu, avec souvent un joueur qui essaye de dévier au premier poteau, en tout cas en l'absence de Gabriel.
Julien, oui, aussi intéressant. Vas-y, au-delà, fin pour toi, Julien.
Ouais, sur le milieu de terrain aussi, parce que Daniel a raison, il y a des points communs entre ces équipes dans la façon dont ils jouent, etc. Mais t'as aussi des différences forcément. Et ce milieu de terrain là, on parlait du côté physique tout à l'heure avec Fabian Ruiz, et s'il n'était pas là, et Zaïre Emery, etc. Il y a pas Partey demain, mais à la place t'as Merino qui redescend donc au milieu de terrain. Merino Rice plus qu'Odegaard, mais Merino Rice physiquement c'est du très très haut niveau. Alors c'est lent pour Merino par exemple, c'est plus rapide pour Rice qui est aussi plus jeune, mais c'est lent pour Merino, mais ça reste dans l'impact, dans les duels, ça reste fort comme
après, le serait Partey aussi. Il aurait aimé avoir Partey quand même. Hein.
Ah oui, il aurait, bien sûr. Non, c'est un gros coup dur pour eux.
Le fait que tu t'arrêtes là-dessus, ça peut nous permettre quand même de faire cette parenthèse. C'est pendant longtemps. On disait ouais, le milieu, il y a pas besoin d'avoir le gars et tout. Je sais pas pourquoi cette idée a été un peu véhiculée à un moment, mais au milieu de terrain, alors, peut-être parce qu'on parlait à l'époque de la fameuse sentinelle qui souvent avait les pieds carrés et était juste là pour foutre des coups. Mais il faut forcément un mec qui mette un gros impact physique et qui ensuite sache quoi faire du ballon. C'est important, mais il n'y a pas de milieu de terrain aujourd'hui. Je sais que Manchester City a souffert pendant des années avant de récupérer Rodri, qui lui a toutes les qualités du monde, donc c'est encore mieux. Mais même dans le grand Barça, pendant combien d'années on a sous-estimé le rôle de Busquets au niveau de l'impact physique? C'est pas parce qu'il était capable de faire des petites feintes et que techniquement il était hyper à l'aise et c'était un joueur vraiment extraordinaire, mais je trouve qu'on le sous-estimait pour tout le temps parler des deux autres, qui effectivement sont les joueurs, Xabi, Iniesta, qui nous régalent, même quand après c'est Rakitic qui est venu. Mais le rôle de Busquets au niveau de l'impact, que ce soit même coup de pied arrêté ou même quand il allait, et le PSG quand ils avaient Thiago Motta, c'est pareil, technique, mais gros impact physique aussi. C'est super important, c'est un élément qui est très demain, important demain, dans une équipe et dans un milieu de terrain.
Demain, le PSG, il n'y a pas d'impact physique, à part Ruiz.
Oui.
Vitinha et João Neves, c'est pas ce genre de joueurs là. Donc
on les a vus dans la dernière demi-heure à Aston Villa.
Exactement.
Et inversement, on les a vus aussi à Anfield contre Liverpool. Julien, ils ont réussi. On leur promettait d'en faire à ce niveau-là aussi contre Liverpool. Ouais, alors,
Gravenberch chez McAllister, c'est pas Merino et Rice en termes d'impact physique, c'est pas la même chose. Alors qu'en revanche, Unai Emery avec Villa, il met quatre milieux défensifs pour une raison. Onana joue au match retour pour ça, pour l'impact physique. C'est la seule raison pour laquelle Onana joue dans ce match-là. Sinon, il n'y a pas besoin. Onana, Camara, Tielemans et McGinn, c'est pour ça. C'est dans l'impact physique. C'est des joueurs qui vont, Tielemans un tout petit peu moins que les trois autres, mais c'est ça, en fait. Et demain, finalement, demain et la semaine prochaine, mais encore plus à l'extérieur, parce qu'à domicile, tu dois pouvoir contrôler un peu plus. Mais c'est vraiment là, cette virtuosité technique que João Neves et Vitinha surtout ont par rapport à l'impact physique des deux autres en face. Et lequel va être meilleur que l'autre, qui va prendre le dessus sur l'autre, en fait. Et on a souvent parlé au début, quand ça tournait pas si bien que ça pour le PSG, du manque d'impact physique du milieu de terrain. Maintenant ça va mieux parce que ils sont tellement forts dans leurs mouvements, avec ballon, sans ballon, c'est tellement bien huilé. Et puis Ruiz a beaucoup apporté, tu as raison, mais
néanmoins,
c'est maintenant
attention,
que l'impact physique
va compter, attention, parce que ce que tu dis, il faut le poursuivre. Le PSG, quand ils subissent un gros impact, un gros pressing, enfin, vous allez me dire c'est normal, toutes les équipes et tout, mais comme en Ligue 1 ils sont pas réellement habitués à ça, mais même dans le peu de matchs de Ligue 1 où ils ont été embêtés, et on l'a vu également en Coupe d'Europe, c'est là où tu peux les prendre. Et c'est là où Aston Villa a été fort au match retour, c'est là où Liverpool, qui s'est fait marcher dessus à l'aller, a néanmoins au retour, ils ont quand même dominé l'essentiel du match, ils se sont créés quand même beaucoup d'occasions, quoi. Enfin, ils à défaut de grosses occasions, ils étaient quand même beaucoup dans la surface et aux abords de la surface du PSG. Quand vraiment tu veux leur mettre une grosse pression et leur marcher dessus, les matchs à très haut niveau, oui, ok, il va falloir à un moment des mecs techniques, bien sûr. De toute façon, ça cela va sans dire qu'il faut des mecs techniques et que le football c'est principalement la technique. Mais l'athlétisation et les efforts que tu dois faire, le pressing, l'impact que tu dois mettre, ça t'oblige à avoir des mecs qui au milieu vont te rentrer dans la tronche, quoi.
Julien,
tu vois, sur le banc,
on se retrouve
juste pour finir, sur le banc, t'as personne. Avant, t'avais Ougarté, par exemple, c'est quand même que t'aurais pu faire rentrer pour mettre des taquets, pour aller récupérer des ballons, pour se battre, etc. Là, il te restera Warren sur le banc, et c'est tout.